Premier séminaire après la chaîne inaugurale, du moins sur l'efficacité. Donc, la semaine passée, on a eu le plaisir d'écouter François Julien qui nous a amené beaucoup de choses, mais entre autres choses, peut-être cette première belle grande définition de l'efficacité, parce que c'est un des buts finalement du séminaire, à savoir l'idée d'un art de gérer les propensions. Alors aujourd'hui, on va continuer à tourner autour de cette idée d'efficacité, sachant qu'on ne peut pas faire une véritable philosophie de l'efficacité à une droite. Qu'on ne peut pas en faire un concept philosophique classique. Et on va analyser, du moins dans un premier temps, essentiellement son rapport au savoir. Et puis on va déplacer le jeu de froid en froid. On ira du savoir vers le droit, etc., vers la décision politique, les techniques de statistique, etc. Alors, ce qui était apparu lors de la session de François Julien, c'est que l'Europe, pour ne retenir que l'aspect européen de sa conférence, c'est que l'Europe a pensé l'efficacité essentiellement à partir du modèle. De l'idéal, de l'idée théorique, etc. Modèle dans lequel il s'agirait, et ce serait censé être efficace entre autres choses, de faire entrer le réel. Donc on peut dire sur cette base-là que le modèle occuperait véritablement, occuperait véritablement le registre de l'action dans le cadre de la philosophie européenne. Au point de donner ce sens particulier et un peu limité que Julien nous a indiqué à l'idée d'efficacité. Hein, finalement, ce qui apparaissait à la fin de l'action, c'est que nous avions une conception de l'efficacité extrêmement limitée, extrêmement grossière, pour être dit, hein, dans ce qu'elle serait marquée justement par cet aller-retour entre savoir et action. Alors aujourd'hui, si je peux deviner ce que vont faire les deux intervenants, on va, je crois, faire le trajet inverse pour penser cette idée d'efficacité. Dans la mesure où il ne s'agira plus de penser, de tenter de se présenter l'efficacité d'une action en ce que l'efficacité d'une action serait marquée par le modèle, par le plan, par l'idéal, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais plutôt, si je devine bien ce que je pense, il s'agirait de se demander dans quelle mesure on peut questionner les modèles du savoir en termes d'efficacité. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'on peut aussi questionner la connaissance, questionner le savoir, questionner la vérité, non pas seulement en termes d'adéquation réelle ou tout autre chose, mais tout simplement en termes d'efficacité. Voilà. Et donc dans ce sens-là, cette leçon, si je la devine bien, désobéira déjà fortement, disons, au portrait que François Julien avait dessiné de la philosophie occidentale. Voilà. Et alors, dans un deuxième temps, avec Sébastien Brunet, on ira vers une autre modulation de rapport au savoir et action, au savoir et décision, qui est beaucoup plus proche, sans doute, de l'actualité politique contemporaine, puisqu'il s'agira de se questionner, de se demander comment les porteurs de savoir, comment les porteurs d'expertise, comment les porteurs d'usage aussi, ce qui n'a rien à voir avec les porteurs d'expertise, peuvent intervenir efficacement dans la politique, dans les lieux de décision, dans les lieux de consultation, etc.
Alors, bonjour, merci d'être là aussi gratuitement. Merci à Thomas Berns et Denis Pierret d'avoir pensé à m'inviter. Alors écoutez, au point de départ, quand on m'a invité à ce séminaire, moi je connaissais pas, je vous le dis franchement, François Julien, et je pensais m'en tenir globalement au thème de la déraisonnable efficacité des mathématiques en physique, puisque ça c'est quelque chose que je connais un petit peu d'autre part. Mais figurez-vous que je me suis passionnée pour François Julien, et il m'a entraînée ailleurs en fait. J'ai trouvé vraiment son exposé tout à fait stimulant, j'ai lu quelques autres ouvrages de lui, et j'ai donc été tentée de continuer à explorer ses thèses dans le domaine des sciences, et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Alors je vais d'abord redire très rapidement ce que Thomas a déjà un petit peu rappelé, les grandes lignes, les grandes, me semble-t-il, hein, des thèses, les grandes lignes des thèses de Julien. Pour ceux, alors je m'excuse auprès de ceux qui ont participé à la conférence, mais enfin peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, ce ne sera pas inutile, ça ne va pas durer trop longtemps, rassurez-vous. Donc, lors de sa conférence, François Julien a posé cette question. Pourquoi est-ce que, alors que la Chine était clairement en avance sur l'Europe jusqu'au 15e, 16e siècle, pourquoi est-ce que brutalement l'Europe a décollé et a pu distancer comme ça la Chine? En fait, c'est une question qu'avait déjà posée un historien des sciences, celui qui est sans doute le plus grand historien des sciences chinoises, Joseph Needham, qui est biochimiste au point de départ, et puis qui s'est passionné pour la Chine, suite d'ailleurs, je crois, à l'arrivée d'une jeune chinoise dans son laboratoire de biochimie, qui est devenue sa femme par la Chine. Donc il a appris le chinois, ça arrive, vous voyez, l'air contingent. Donc, et il est devenu vraiment, c'est vraiment lui qui a fait connaître les sciences chinoises en Occident. Et il posait déjà exactement dans ces termes-là la question qu'a reposée Julien. Selon François Julien, on le sait, la réponse c'est que cela est lié à l'utilisation par Galilée, Thomas vient de le rappeler, du modèle mathématique, à l'idée que Dieu a écrit le monde en langage géométrique. Idée folle, nous a dit Julien, personne n'a pu expliquer pourquoi ça marche, mais ça marche et c'est ça qui aurait fait le succès de l'Europe. Galilée a inventé la physique mathématique et cette invention a marqué le début d'une extraordinaire aventure, celle de la science occidentale, qui est donc fondée sur l'application du modèle mathématique idéal au réel, et qui nous a permis de devenir maître et possesseur de la nature. Idée folle, dit Julien ailleurs, dans le texte d'une autre conférence, parce que, et je le cite, « personne ne comprend la déraisonnable efficacité des mathématiques ». C'est une formule qu'il n'a pas inventée, hein, c'est une formule de Wigner bien connue, c'est le titre d'un article, « La déraisonnable efficacité des mathématiques en physique ». Les Chinois, eux aussi, avaient une mathématique, mais jamais ils n'ont pensé que les mathématiques pouvaient, nous dit Julien, être un langage et servir à rendre compte des phénomènes naturels. Jamais ils n'ont pensé que Dieu pourrait écrire le monde en équation et qu'en apprenant le langage du monde, donc en apprenant les mathématiques, nous pourrions comprendre ce monde. Alors cette réponse proposée par Julien rejoint en fait tout à fait celle qu'avait donnée Joseph Needham précédemment. L'Occident a dépassé la Chine parce qu'il a développé une physique mathématique puissante et efficace, et pour Needham, ce pari extraordinairement ambitieux était en fait lié à une croyance en un Dieu rationnel, hein, et législateur, dont les décrets peuvent donc être compris par les autres êtres rationnels que nous sommes. Hein, ce serait cette croyance en un Dieu rationnel qui aurait donné aux Occidentaux la foi dans l'intelligibilité du monde. Bref, depuis Galilée, comprendre et agir sur le monde, pour l'Occident, ce serait essentiellement lui appliquer un modèle mathématique idéal et même quasi divin. Alors, cette manière typiquement occidentale de voir les choses n'est, toujours selon François Julien, pas limitée aux sciences modernes. Hein. On trouve cela dès l'Antiquité, il nous l'a rappelé dans sa conférence. Hein, les Grecs, depuis l'époque classique, il faudrait peut-être ajouter une petite nuance pour ce qui est de l'époque archaïque et l'importance de la notion de métis. Mais enfin, à partir de l'époque classique, nous dit Julien, les Grecs ont pensé l'efficacité à partir du modèle, à partir de l'eidos. Hein. Pour être efficace, je pars du modèle et je m'efforce ensuite de le faire rentrer dans la réalité. C'est le cas chez Platon, hein, pour agir, il faut d'abord connaître, et connaître, c'est d'abord connaître les idées. Hein, connaître les modèles, mais aussi pour Aristote, où on voit sans cesse l'artisan humain qui s'efforce de faire rentrer la forme dans la matière, une matière qui résiste, d'autre part. Cette manière de penser donc, ne serait pas une invention du XVIIe siècle, elle serait typique de toute l'histoire de l'Occident, pour Julien, et elle n'est pas non plus liée, selon lui, au seul développement de la science. C'est aussi comme ça que les Occidentaux, nous a-t-il dit, pensent la morale et la guerre. Le grand général, hein, on se souvient, c'est celui qui parvient à imposer son plan malgré les circonstances, et il sera d'autant plus admirable que les circonstances lui sont contraires, en quelque sorte. Le général est d'autant plus héroïque que sa victoire est risquée. Alors le détour par la Chine aurait permis à Julien de se rendre compte que cette manière de penser n'est pas nécessaire, qu'elle n'est pas la seule possible, et que peut-être elle n'est pas la plus efficiente, pour reprendre son terme. Sa thèse, on le sait, c'est que ce qui a si bien marché dans le domaine de la connaissance de la nature, le rapport entre le modèle et son application, n'a pas marché de la même manière au niveau de la praxis. Ce qui marche bien en science, nous dit-il, ne marche pas toujours ailleurs. En matière de stratégie militaire, par exemple, c'est l'exemple qu'il a développé, hein, il évoque à ce propos Clausewitz, qui affirme que la pensée a échoué à penser la guerre, mais qui continue quand même à penser la guerre de la même manière, c'est-à-dire en comparant la guerre idéale, parfaite, et la guerre réelle, où rien ne va jamais exactement comme on l'avait prévu. Au point, nous dit-il, qu'il en a fait une définition de la guerre c'est ce qui dévie toujours. C'est ce qui dévie toujours. L'essence de la guerre, c'est qu'elle ne correspond jamais à ce qu'on avait projeté. Vous vous souvenez, il a rappelé cet épisode de Tolstoï où le général autrichien lit le plan, lit la veille d'Austerlitz, lit la veille de la bataille, le plan, à ce qui va se passer, et puis c'est pas du tout ça qui se passe, il y a du brouillard, et puis finalement, Napoléon, qui n'aurait pas dû l'emporter, ben, l'emporte quand même. Les stratèges chinois, eux, voient les choses de manière différente, nous dit Julien, puisque plutôt que de chercher à imposer leur plan à la réalité, ils vont chercher à exploiter le potentiel de situation. Ils vont chercher à transformer le rapport de force entre le rapport des forces en présence, hein, transformer l'état physique et psychologique de l'ennemi ou de leurs propres troupes, pour que progressivement le potentiel de situation leur soit favorable. Et ils n'engageront, nous dit Julien, le combat que lorsqu'ils jugeront que la situation elle-même leur donnera la victoire, que la situation elle-même va accoucher de la victoire. Et ils commenceront à se battre en quelque sorte que quand ils auront déjà gagné. Et le bon général, en Chine, j'ai presque fini de résumer, vous savez, je m'excuse encore auprès de ceux qui ont déjà entendu tout ça, mais enfin bon. Donc, enfin, vous voyez que j'étais attentive. Hein. Bon, le bon général en Chine n'est pas héroïque, il est au contraire tout à fait discret. Une victoire est d'autant plus admirable qu'elle est facile. Peu d'efforts, nous dit-il, beaucoup d'effets. Il faut aménager les conditions en amont, faire mûrir les conditions favorables pour que l'effet découle tout seul. Il faut, dit Julien, créer la pente. Vous vous souvenez de cette image, et il avait insisté sur le fait que, quand il parle de potentiel de situation, il faut entendre là le mot potentiel dans son sens physique, hein, d'énergie potentielle, vous savez, comme une grande masse d'eau qui se trouve au sommet d'une côte, à une grande énergie potentielle, il suffit de la lâcher, elle va faire le travail tout seul. Les troupes qui l'emportent, ce sont donc celles qui ont vaincu avant même le début de la bataille, et du grand général, nous dit-il, il n'y a rien à louer, ni sagacité, ni courage. Ceux qu'on loue ont pris des risques, et en cela, ce sont de piètres généraux. Pour les Chinois, la guerre doit être sans risque, elle ne dévie donc jamais. Alors ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous inviter un peu à revenir sur les développements de Julien à propos de la science moderne. Pour le dire très vite, alors c'est un peu rapide, hein, ceci, mais je vais développer, je voudrais suggérer que le mode de fonctionnement de la science moderne, de notre science, est en fait bien plus proche de celle du stratège chinois que décrit Julien que nous pourrions le penser. Pour le dire un peu brutalement, l'hypothèse que je voudrais éprouver avec vous, c'est que plutôt que de considérer, comme le dit Julien, que ce qui a si manifestement réussi dans la science, l'application d'un modèle idéal à la réalité, ne réussit pas si bien dans la praxis, donc plutôt que de penser cela, je me demande s'il ne serait pas possible de considérer que ce qui réussit dans les sciences, comme dans la praxis, ce n'est pas l'application d'un modèle idéal à la réalité, mais une lente transformation du potentiel de situation. Donc, je voudrais essayer de vous montrer pourquoi il me semble qu'il y a quelques pertinences, finalement, à appliquer les développements de Julien sur les stratégies de transformation d'une situation, au champ même dont il estime qu'il relève d'une autre approche, hein, à savoir le champ de la science. Mais si vous voulez bien, je vais quand même faire un petit détour avant d'en arriver au développement de cette hypothèse et revenir rapidement au geste galiléen et au sens de la formule la déraisonnable efficacité des mathématiques. Donc je pense, comme vous voyez, qu'on doit la contester, mais dont je crois quand même, je vous le dis tout de suite, qu'il y a quelque chose à sauver. Alors, revenons donc rapidement au geste galiléen. Dans la manière dont Julien parle de la révolution scientifique, on retrouve bien sûr les thèses d'Alexandre Coiré. Celui-ci, vous vous en souvenez, définit la révolution scientifique non pas comme étant d'abord la découverte d'une méthode expérimentale, on sait que pour Coiré, Galilée a relativement peu expérimenté, en tout cas beaucoup moins qu'il ne le dit. Donc la révolution scientifique n'est pas d'abord la découverte d'une méthode expérimentale, contrairement à ce qu'on dit en général, mais l'invention d'une physique mathématique. Galilée, selon Coiré, est le premier à identifier l'explication et l'essence mathématique. Il est le premier à passer outre à l'interdiction d'Aristote d'appliquer la mathématique à la physique. Il est le premier à entreprendre d'expliquer la réalité par référence à un monde d'idéalité. Hein, et vous connaissez bien, je pense pour la plupart d'entre vous, les thèses de Coiré qui vous dit, mais en fait, ce que Galilée va mettre au fondement de la science, ce n'est pas du tout quelque chose à quoi on peut accéder par l'expérience. Ce qu'il y a de plus fondamental dans la science moderne, finalement, c'est quoi? C'est le principe d'inertie. Le principe d'inertie, ce n'est absolument pas quelque chose que vous pouvez observer comme ça dans l'expérience quotidienne. Hein. La physique aristotélicienne et scolastique est bien plus proche de notre expérience quotidienne que la physique galiléenne. Hein. Le principe d'inertie, vous pouvez éventuellement y arriver par passage, hein, au cas idéal, mais vous n'observez jamais, évidemment, dans la nature, un corps qui n'est soumis à aucune force et qui perpétue à l'infini son mouvement rectiligne uniforme. Personne n'a jamais vu ça. Alors on peut extrapoler à partir d'une série d'observations, mais ça relève quand même d'un cas idéal qui ne correspond jamais à ce que l'on voit dans la nature. Ce qu'on voit dans la nature, ce sont des objets qui s'arrêtent spontanément quand on cesse de les pousser. Bref, c'est de la physique aristotélicienne. Alors, contre l'empirisme aristotélicien, on le sait, selon Coiré, Galilée renouerait avec la conviction platonicienne que seule la contemplation des formes idéales peut mener à une véritable connaissance. Que si nous voulons connaître le monde sensible, nous devons en passer par les modèles intelligibles, dont les réalités sensibles ne sont que des copies. Alors vous connaissez la suite, le monde moderne va hériter du geste de Galilée, pour le meilleur, on aura l'espoir d'être maître et possesseur de la nature, et même si on n'est pas toujours tout à fait efficace, la science a quand même démontré une certaine forme d'efficacité, pour le meilleur et pour le pire aussi, vous connaissez ce thème développé par toute une tradition philosophique, le monde tout entier sera mécanisé, réduit à un objet de calcul, l'homme deviendra étranger à son monde, il découvrira sa totale solitude, son étrangeté radicale. Comme un tzigane, je lis la fin du texte de Monod, le hasard et la nécessité, qui est assez typique de ce genre de rhétorique. Comme un tzigane, il est en marge de l'univers où il doit vivre, univers sourd à sa musique, indifférent à ses souffrances, comme à ses crimes. Voilà. Alors, je voudrais, comme je l'ai annoncé, prendre le risque d'interroger un peu cette interprétation, qui est solidement implantée, mais qui n'est peut-être pas aussi incontestable qu'elle en a l'air. Alors voilà rapidement quelques questions que je voudrais envisager avec vous. Voilà, est-ce que l'application, alors vous allez voir, je vais y aller avec mes gros sabots, hein, je vois un petit peu, bon. Est-ce que l'application des objets idéaux des mathématiques à la réalité physique est finalement si efficace que ça? Parce qu'on nous dit toujours que c'est très efficace, mais bon, est-ce que c'est si efficace que ça? Alors, m'arrêter aussi à cette question, qu'est-ce qui nous émerveille finalement, ou juste, dans cette fameuse déraisonnable efficacité des mathématiques? Une question qui reprend un peu les deux précédentes. En quoi l'idée que le monde est écrit en langage mathématique est-elle, comme dit Julien, une idée folle, mais qui marche extraordinairement bien et qui a fait de nous les maîtres et possesseurs de la nature? Il me semble que finalement, alors que j'ai souvent enseigné ce genre de choses, je me dis maintenant, mais il me semble que ça ne va pas du tout de soi tout compte fait. Alors, je reviens à la première question, hein, l'application des objets idéaux à la réalité physique. La science dont parle Julien, après beaucoup d'autres, hein, celle qui cherche à faire passer un modèle mathématique dans le monde réel, celle qui nous dit que c'est le cas idéal qui est fondamental, que c'est le cas idéal qui permet de comprendre le cas réel, hein, comme quand on vous dit, vous étudiez, je vous ai déjà dit ça, enfin ceux qui ont été mes étudiants, là, on commence toujours par vous parler du cas idéal, et puis on vous dit le cas réel, c'est le cas idéal avec quelque chose en plus. Hein. Donc, on étudie le pendule, hop, on commence par étudier le pendule idéal conservatif qui bat toujours de la même manière pour l'éternité, qui, hein, donc, conservation de l'énergie, ok. Et puis on vous dit, ah, mais le vrai pendule, enfin le pendule de la réalité, la balançoire que vous arrêtez de pousser, ben, elle finit par s'arrêter. Ah, ok, bon, ben, écoutez, c'est le cas idéal, plus quelque chose, le frottement de l'air, des rouages, etc., de la mécanique, etc. Bon, donc cette science qui nous dit que, il faut toujours partir du cas idéal pour comprendre le reste, qui nous dit que les objets parfaits des mathématiques, les triangles, les cercles, du fameux extrait de Galilée que tout le monde connaît, là, hein, vous savez bien, hein, Galilée qui nous dit « la science est écrite en langage mathématique, ses caractères sont les triangles et les cercles, et nous ne pourrons rien comprendre si nous n'apprenons pas d'abord à parler son langage. Hein. » Donc, cette science qui nous dit que les objets des mathématiques, triangles, cercles, etc., s'incarnent dans le réel, est-ce que finalement, c'est si efficace que ça? Alors, oui, dans certains cas, manifestement, comme l'astronomie. C'est vrai que les planètes décrivent à une très bonne approximation près une courbe très, très simple mathématiquement qui est l'ellipse. Remarquez que c'est quand même pas le cercle, hein. C'est quand même pas aussi simple que... Vous savez d'ailleurs que Galilée n'a jamais accepté l'idée que les trajectoires des planètes étaient elliptiques. Il connaissait les lois de Kepler, hein. Il a toujours refusé ça parce qu'il trouvait que les ellipses étaient très laides. Hein. Non mais c'est vrai. Donc lui, il voulait continuer à croire que les orbites des planètes étaient des cercles. Bon... Enfin bref, mais même si on accepte que ce sont des ellipses, et je crois qu'il vaut mieux l'accepter, étant donné ce qu'est la science aujourd'hui, bon, c'est sûr que l'ellipse est quand même une courbe très très simple mathématiquement, hein, c'est ce qu'on peut faire de plus simple après le cercle. Bon, donc ça c'est vrai que dans certains cas, on se dit, bah oui quand même, hein, on peut être impressionné de cette incarnation d'une figure simple des mathématiques dans la physique. Hein. La balistique, sans doute, au moins par temps calme, hein, j'imagine que les boulets de canon, oui, non, s'il n'y a pas trop de vent et tout ça, suivent globalement la trajectoire parabolique ou de courbe très simple, hein, que la théorie mathématique prévoit. Bon, mais peut-être que ce genre de cas, c'est un peu l'arbre ou les quelques arbres qui cachent la forêt et une forêt de nature finalement complètement différente. Parce que, au juste, qu'est-ce qui nous émerveille dans ce qu'on désigne comme cette déraisonnable efficacité des mathématiques. Est-ce que c'est, comme on le dit parfois, et comme ce que j'ai laissé dire jusqu'ici pourrait peut-être laisser penser, est-ce que c'est seulement que les objets mathématiques, les raisonnements mathématiques, nécessaires, parfaits, éternels, etc., s'appliquent avec succès au monde physique qui, lui, est imparfait, soumis au devenir, etc. Je ne crois pas, en fait, que ce soit ça qui émerveille les gens qui, comme Wigner, hein, donc le physicien à qui on doit cette formule, hein, parle de la déraisonnable efficacité des mathématiques. Ni Wigner, ni quelqu'un comme Einstein, qui pense aussi en ces termes-là. Hein. Einstein, vous savez peut-être, disait « ce qu'il y a de plus incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Hein. » Quelle merveille que ce monde soit compréhensible avec des modèles finalement relativement simples. Je crois que ce qui émerveille tous ces gens-là, ce n'est pas que le monde physique puisse être décrit avec des modèles mathématiques. C'est qu'il puisse être décrit avec des modèles mathématiques simples. C'est qu'il puisse être décrit avec des mathématiques simples, voire même avec les modèles mathématiques les plus simples. Hein ? Einstein disait ça, hein, que ce qui est réalisé dans le monde physique, c'est ce qui est le plus simple mathématiquement. Vous voyez, c'est ça, je crois, qui est étonnant, voire déraisonnable. Ce n'est pas qu'il soit possible de décrire mathématiquement l'orbite des planètes, mais que ce soit possible de le faire avec une courbe mathématique très simple. Parce que, somme toute, si les planètes suivaient des trajectoires extrêmement compliquées, on peut imaginer hein, des planètes qui seraient une trajectoire complètement sophistiquée, bon, il serait tout aussi possible de les décrire mathématiquement. Hein. Comme disait Leibniz, n'importe quelle courbe, hein, même n'importe quel visage peut être décrit par une équation mathématique, il suffit de prendre une équation suffisamment compliquée, quand vous ajoutez tous les termes, hein, pour coller finalement à la courbe que vous voulez décrire. Et sans doute que dans ce cas-là, on ne verrait pas vraiment dans cette histoire de motif d'émerveillement. Alors, vous voyez, je crois que dans un autre registre, on peut aussi souligner, un peu dans le même sens, qu'on a des raisons de minorer cet étonnement devant le fait que les mathématiques s'appliquent au monde. C'est pas ça qui est étonnant. Alors, je vous parle d'un autre registre, c'est celui de certains travaux d'inspiration cognitiviste. Bon, vous savez bien que c'est pas ma spécialité, mais enfin, il se fait que j'ai lu dernièrement quelques articles, notamment un article tout récent écrit en collaboration par un mathématicien, Giuseppe Longo, et un psychologue, Arnaud Villarouge, dont je vais quand même vous dire très rapidement quelques mots, parce qu'ils s'en prennent précisément à cette formule de l'efficacité des mathématiques. Ce qu'ils nous disent, c'est que plutôt que de considérer avec Platon que les mathématiques sont puis toujours dans le ciel des idées, il faudrait considérer que ce qui est au fondement des mathématiques, je vais un peu vite, hein, je résume très rapidement, si ça vous intéresse, je vous donnerai la référence. Ce qui est au fondement des mathématiques, c'est une espèce de sens du nombre, disent-ils, une espèce d'acuité numérique dont l'évolution nous aurait doué et qui nous permet d'appréhender certains aspects du monde, de même que notre acuité visuelle, hein, notre sens de la vision nous permet aussi de percevoir notre monde. Donc, si on accepte que les théories mathématiques se sont peu à peu constituées à partir de multiples expériences que nous faisons et qui font intervenir ce sens du nombre, ce qu'ils suggèrent, hein, ils vous disent, ce sens du nombre, il est déjà présent dans les premiers mois de la vie, et même chez les primates, on constate qu'ils sont déjà capables même un bébé capable de reconnaître que deux collections ont le même nombre d'éléments, enfin pour des collections relativement, pas trop nombreuses évidemment, hein, mais ça, nous non plus, hein, vous savez, une fois qu'on dépasse 6 ou 7, je ne suis pas sûr qu'on voit immédiatement. Bon. Enfin bref, donc si on imagine que les théories mathématiques se sont constituées comme ça à partir de ce type d'expérience, il n'y a plus vraiment de raison de crier au miracle quand on constate que les mathématiques s'appliquent au monde. Donc, dans leur article, ils expliquent par exemple que la construction de la ligne mathématique continue sans épaisseur aurait pour origine plusieurs expériences, comme par exemple l'expérience que fait un prédateur quand il regarde le trajet, la trajectoire d'une proie, ou aussi le sentiment que je peux avoir de l'inertie de mon corps, de la stabilité de mon mouvement, etc. Et aussi le fait évidemment que l'évolution m'a pourvu d'un cerveau qui me permet de coller en quelque sorte les protensions et les rétentions, et qui me donne donc, qui me permet de voir apparaître une trajectoire continue là où d'autres organismes, non, ce n'est pas le cas de la grenouille, mais je ne suis pas plus sûr que ça, voient des discontinues. Bon, si les mathématiques sont compatibles avec le monde, ce serait, selon ces auteurs, et d'ailleurs selon bien d'autres, parce qu'elles sont co-constituées avec la connaissance du monde tout en l'organisant. Les mathématiques, disent-ils, ont été construites en même temps que les objets physiques, elles collent au monde comme l'écorce à l'arbre, je reprends leur image, elles grandissent et évoluent avec lui. Selon eux, il n'y aurait donc pas plus de raison de s'extasier devant l'efficacité des maths que de s'extasier devant l'efficacité du langage. Il faudrait penser les mathématiques sur le modèle des langues naturelles qui sont efficaces tout en étant relativement incomplète. On a tous fait cette expérience d'un mot qui est difficile à traduire dans une autre langue, ce qui montre bien, disent-ils, qu'il y a des phénomènes ou des sentiments qui sont moins bien perçus par certaines langues que par d'autres, hein, qu'il est difficile de saisir correctement dans telle langue particulière. De la même manière, les mathématiques colleraient au monde sans parvenir à en fournir une description complète. Mais tout ça n'empêche pas les mathématiques, comme les langues naturelles d'ailleurs, d'être efficaces. Pour eux, voyez, les mathématiques seraient l'un des champs qui se sont constitués avec le progrès de l'intelligibilité du monde et pas un don du ciel platonicien. Et si elles jouent un rôle particulier et privilégié dans les théories de la connaissance, c'est essentiellement parce qu'elles s'ancrent dans des processus fondamentaux de nos interactions avec le monde. Si elles sont dans une certaine mesure privilégiées par rapport à d'autres formes d'intelligibilité, par rapport à d'autres langages, ce serait simplement parce qu'elles constituent le langage. Ce serait pas parce qu'elles constituent le langage de la nature ou le langage dans lequel Dieu nous parlerait à travers la nature, mais parce qu'elles constituent cette partie de la construction de la connaissance qui est, disent-ils, maximalement stable et invariante. Les concepts mathématiques se distingueraient des autres par leur stabilité. Mais ils ne viennent pas d'ailleurs, hein, et il ne faut pas y voir des absolus qui seraient indépendants des pratiques humaines. Nous élaborons les concepts mathématiques, disent-ils, en nous frottant au monde, et c'est pourquoi, une fois encore, il n'y a pas de miracle. Je les cite encore une fois, c'est le processus de constitution et sa friction avec le monde qui assure à la mathématique son objectivité et, disent-ils, sa très raisonnable efficacité. Pas de quoi s'étonner. Alors c'est vrai que si on adopte leur conception, la formule de la déraisonnable efficacité des maths ne peut sans doute que sembler malheureuse. Alors je pense cependant qu'il est possible de sauver cette formule et avec elle la conception, disons, platonicienne. Je vais parler dans la suite de conception platonicienne pour ne pas vous redire chaque fois la conception selon laquelle, pour connaître, il faut partir d'un modèle idéal. Bon, d'accord, donc j'appelle ça conception platonicienne, bon, avec une certaine désinvolture à l'égard de l'histoire de la philosophie dont je m'excuse, mais enfin, voilà, on se comprendra. Entendez-le simplement comme un résumé. Donc, je pense qu'il est possible de sauver en quelque sorte cette conception platonicienne, mais je pense aussi que ce sauvetage sera très local, que le champ d'application de cette conception est strictement limité à la physique théorique, tandis que la plus grande partie de la science, comme je l'ai annoncé précédemment, relèverait plutôt, on pourrait tenter de dire qu'elle relève plutôt d'une stratégie, alors je vais dire aussi avec la même négligence, à la chinoise. Donc, vous voyez, donc, conception platonicienne, oui, peut-être dans une partie très particulière de la physique théorique, et même sans doute une partie de la physique théorique. Hein, et là, on peut sauver, je crois, la formule de l'efficacité, de la déraisonnable efficacité. Et puis, pour le reste, peut-être que le modèle de Julien s'applique encore au-delà de ce qu'il propose lui-même. Quoi. Alors, je crois que s'il y a moyen de sauver cette formule, c'est un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la mesure où, contrairement à ce qu'on croit parfois, et est-ce que sans croire aussi, d'autre part, un peu ce que je viens, à partir de ce que je viens de dire, des gens comme Longo et Villarouche, qu'elle ne signifie pas, cette formule, qu'il est étonnant, admirable ou déraisonnable qu'on puisse décrire mathématiquement le monde physique, mais que ce qui est étonnant, admirable, voire même déraisonnable, c'est que le monde physique, en tout cas un certain monde physique, se laisse décrire par des mathématiques très simples. Ce qui est étonnant, hein, c'est qu'un raisonnement comme ceci marche, un raisonnement qui vous dit, à partir de ce que je connais de mon phénomène physique, je vais me demander quelle serait l'équation mathématique la plus simple qui permettrait de décrire ce phénomène. Hein? J'étudie cette équation, je l'écris, je regarde les conséquences qu'elle suppose, je fais des observations et je me rends compte que ces conséquences sont effectivement avérées. C'est ça qu'il y a. Il y a quand même quelque chose. Enfin, moi, je continue à trouver qu'il y a quelque chose de très surprenant là-dedans. Hein? Non, mais écoutez, qu'on puisse, parce que ça, c'est arrivé quand même dans la physique théorique, qu'on puisse, grâce à des considérations de beauté des équations mathématiques, de symétrie des équations mathématiques, anticiper sur l'existence d'objets qu'on n'avait jamais observés, dont on ne connaissait pas l'existence, c'est quand même très fort, quoi. C'est pas la même chose que de croire que les mathématiques résument une série d'expériences, et résument de manière élégante, rapide, tout ce que vous voulez, efficace, une série d'expériences. C'est autre chose que ça, hein, c'est l'utilisation des mathématiques dont je parle ici. Et dont on a quelques exemples en physique théorique. Hein. Vous voyez comment ça se passe, par exemple, bon, les physiciens théoriciens connaissent quelques particules. Ils se disent, tiens, pour décrire ces particules, pour rendre compte des caractéristiques de ces particules, j'ai là une théorie mathématique abstraite, une théorie des groupes qui pourrait m'être utile. Mais cette théorie, si c'est vraiment le modèle mathématique qui est réalisé dans le monde physique, hein, cette théorie Elle suppose l'existence d'autres particules qui ont telle masse, telle charge, telle caractéristique. On ne les connaît pas, on ne les a jamais observées. Cherchons-les. Alors une fois qu'on a leur masse, leur charge, on sait comment les chercher. On les cherche, on les trouve. C'est quand même extraordinaire, ça. Hein, bon. Vous voyez, on trouve ce genre de choses aussi dans les théories de jauge. Enfin bon, vous savez bien que je dois toujours résister à l'envie, mais non, bon, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais quand même. Donc, les théories de jauge, je dis très rapidement et très... les physiciens qui sont dans la salle vont peut-être se mettre à hurler, mais enfin bon. Alors, vous voyez très, très rapidement, vous partez de la description de l'électron libre, un électron donc, qui n'est pas soumis à un champ électromagnétique. Bon, ok. Regardez cette équation, vous dites, elle a certaines symétries. Si on fait un changement, un tel type de changement dans tout l'espace, ben, okay, l'équation reste la même. L'équation est invariante par rapport à ce type de changement. D'accord. Si on transformait cette symétrie globale en une symétrie locale, qu'est-ce qui se passe? Ah ben l'équation n'est plus invariante. Bon, l'équation n'est plus invariante. Donc, bon, alors, et si on voulait qu'elle le soit? Donc si on voulait qu'elle ait des propriétés de symétrie qu'elle n'a pas telle qu'elle. Ah, bon, ben alors, évidemment, il faut ajouter des termes supplémentaires pour contrebalancer l'effet des termes qui apparaissent du fait de la symétrie que j'impose. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein? Okay? Donc j'applique une transformation sous laquelle l'équation n'est pas invariante, il y a des termes supplémentaires qui apparaissent. Si je veux qu'elle soit invariante, il faut que j'ajoute quelque chose à mon équation pour contrebalancer ces termes-là. Okay. Et quelque chose que j'ajoute, vous savez ce que c'est? Ben, ça décrit le champ électromagnétique. Mais vous vous rendez compte, vous avez... vous avez à partir d'une exigence de symétrie de votre équation obtenu la description du champ électromagnétique de manière a priori, d'accord, et ça correspond à celui que vous observez effectivement, quoi. C'est quand même très fort. Et là, je vous dis ça, c'est une des théories de Jauge, mais c'est pas la seule, hein. Bon, c'est celle pour l'électromagnétisme. Bon, alors oui, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant dans ces exemples. Quelque chose qui tient peut-être à ce sentiment qu'il y aurait plus, en quelque sorte, dans les modèles mathématiques que ce qu'on a conscience d'y mettre, finalement. Un sentiment qu'il y aurait une proximité, une complicité, comme ça, entre physique et mathématiques, dont l'analogie que j'ai suggérée tout à l'heure à la suite d'autres, l'analogie entre le langage et les mathématiques, ne permet pas vraiment de rendre compte, hein, à quoi correspondrait cette puissance prédictive des mathématiques, hein. Comment les propriétés même du langage, ses structures, etc., pourraient-elles nous permettre de deviner l'existence d'un objet physique? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Alors, je crois qu'il faut reconnaître, cependant, malgré mon enthousiasme, hein, que les exemples de ce type, qui illustrent, je pense, quand même, une efficacité du modèle mathématique, assez conforme à ce qu'on pourrait attendre si on croit à la conception platonicienne de la science, ces exemples, je pense, ne peuvent être trouvés que dans la physique théorique. Et bien sûr, cette physique théorique n'est pas le tout de la science, ni même le tout de la physique. Je crois que si la conception platonicienne possède une certaine validité, elle est en fait relativement locale. Elle est locale au sens figuré, localisée à une partie de la physique, mais elle est aussi locale au sens propre, en ce sens qu'elle est localisée dans le laboratoire. Alors, en ce qui concerne le premier point, je pourrais multiplier les exemples qui montrent que, d'une part, quand on s'éloigne de la physique, on doit souvent renoncer à la puissance prédictive des modèles mathématiques, et que, d'autre part, même en physique, mathématiser, c'est pas nécessairement contrôler, maîtriser, devenir maître et possesseur de la nature, etc. Mais, d'une part, je l'ai déjà fait souvent, et puis, d'autre part, je voudrais développer plutôt le second point, la localisation dans le laboratoire, aussi parce que je pense que ça nous permettra d'articuler, peut-être avec l'exposé de... Enfin, ce que je dis avec l'exposé de Sébastien. Alors, vous avez peut-être l'auditeur attentif, comme on dit dans ce cas-là, aura peut-être deviné que je dévie un peu de la question de l'efficacité du modèle mathématique vers l'efficacité du cas idéal. Hein. Donc, je dévie comme la guerre, là, vous voyez. Bon, c'est sans doute assez contestable, hein, mais je vous demande quand même les circonstances atténuantes, si vous voulez bien, parce que je ne suis pas la seule à le faire. Vous voyez bien que le passage du modèle mathématique au modèle idéal se fait assez facilement. Hein, qu'il y a une espèce de... Je ne suis pas la seule à passer subrepticement du cas des mathématiques au cas de l'idéal. Bon, voilà. Enfin, ça ne m'excuse pas complètement, mais il faut que j'aille un peu vite. Hein. Alors, pour le dire un peu vite, en ce qui concerne cette idée de la difficulté à sortir du labo, c'est que le cas idéal, celui qu'on peut décrire par un modèle mathématique simple, qu'on peut approcher en laboratoire, a souvent du mal à sortir du laboratoire. Ce qui a été établi dans le laboratoire l'a été, on le sait, dans des conditions très strictes, et il n'est pas toujours certain que quand on va sortir dans le grand monde, si je puis dire, hein, que ce qu'on a obtenu en milieu protégé va résister aux conditions extérieures. Ou si vous voulez, pour prendre les choses à rebours, on pourrait dire que les belles lois mathématiques que l'on dit universelles doivent leur existence à la mise en place de conditions finalement extrêmement particulières. C'est quelque chose d'un peu paradoxal. On observe l'universel que dans des conditions extrêmement particulières. C'est ce que suggère, par exemple, entre autres, il n'est pas le seul, Christian Lycop, qui est l'auteur d'un ouvrage qui a eu un certain succès, qui s'appelle « La formation de la pratique scientifique », donc le développement de l'expérience en France, en Angleterre, au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, lui suggère effectivement que ces lois simples et universelles n'ont pu devenir visibles qu'avec l'avènement de ce qu'il appelle le régime de l'exactitude, à la fin du XVIIe, quand la science moderne s'est enfermée dans le laboratoire. Pour montrer que les mesures s'accordent avec les lois, s'accordent de manière précise avec ces lois simples et universelles de la théorie, il a fallu fabriquer des instruments de plus en plus précis, et donc de plus en plus fragiles aussi, appareils qu'on va mettre à l'abri pour éviter qu'ils ne soient perturbés par le grand public, et même par les scientifiques eux-mêmes. On va les confiner dans les laboratoires, mettre souvent derrière des vitres, voire même au fond de la Terre. La figure moderne de la recherche confinée, je cite là Lycop, retirée du monde et par conséquent précise et efficace est née. Le grand enfermement des chercheurs a commencé. On clôt portes et fenêtres, on se retrouve entre soi, entre chercheurs et techniciens disciplinés, entourés d'instruments calibrés et puissants, loin du public et de ses falbalas. Donc, vous voyez, la figure moderne de la recherche confinée, retirée du monde et par conséquent précise et efficace est née. Elle est efficace parce qu'elle est retirée du monde. C'est un peu étonnant, quoi, alors qu'on pense souvent l'efficacité comme ça, la capacité de sortir du monde, enfin de sortir vers le monde. Alors, évidemment, si on veut que la science ne se réduise pas à ce qui pourra apparaître au grand public comme une espèce de jeu stérile, il faut bien qu'au moment ou l'autre, on sorte du laboratoire. Et évidemment, c'est là que le beau modèle mathématique, le plan idéal, va manifester ses limites. Ça ne se passe pas toujours exactement comme on l'avait prévu. Dans le laboratoire, les corps qu'observe Galilée tombe avec une accélération constante, mais évidemment, quand on sort, il y a du vent, il y a la résistance de l'air, et puis ça se passe pas. Il y a tous ces petits empêchements qu'on ne peut pas défalquer, comme disait Galilée, défalquons tous les empêchements pour avoir l'essence même du phénomène. Ben non, quand on sort, on ne peut plus les défalquer. Vous avez un autre exemple qu'on prend souvent, c'est celui de la révolution verte. Vous savez, ces agronomes-là qui sont parvenus à mettre au point des variétés de céréales à haut rendement, avec le projet de nourrir la terre. D'ailleurs, un des responsables, ceux qui ont développé cette révolution verte a eu le prix Nobel de la paix. Et puis alors, on s'est rendu compte, dans le laboratoire, c'est-à-dire dans les champs, bien surveillés, bien irrigués, où on utilise les engrais qu'il faut, etc. Bon, tout ça se passait très bien. Et puis une fois qu'on lance ça dans le monde, une fois qu'on vend ces semences au tiers monde, on se rend compte qu'il y a en fait toute une série de conditions d'utilisation qui se sont révélées incompatibles avec le mode d'organisation du travail de beaucoup de pays. Il faut beaucoup d'engrais, il faut des machines, ça ne devient rentable que si on a des surfaces suffisantes. De sorte que finalement, une série de petits propriétaires ont été amenés à vendre leurs terres, sont devenus salariés. Enfin, donc toute une série de paramètres socio-économiques dont les agronomes n'avaient pas tenu compte, mais ils n'avaient pas à en tenir compte, on ne peut pas leur reprocher, mais on nécessairement fait leur apparition une fois qu'on est sorti du laboratoire. Vous voyez, sortir du labo, c'est nécessairement devoir prendre en compte une série de déterminations qui rend parfois problématique la validité des résultats obtenus dans le labo. Alors évidemment, ça n'empêche pas de continuer à parler en termes platoniciens, dire ah ben, tout ça c'est une illustration des difficultés que rencontre l'idéal quand il cherche à s'incarner dans le réel. Mais enfin, donc c'est vrai qu'on peut continuer à penser comme ça, mais enfin, finalement, dans les situations réelles, on voit de moins en moins l'idéal et de plus en plus les difficultés, au point que finalement, il me semble qu'on peut se demander si la description que propose quelqu'un comme Bruno Latour, qui semble aller en fait tout à fait à l'encontre de la description précédente, n'est pas finalement plus réaliste. Alors je trouve que c'est d'autant plus intéressant pour notre propos qu'il me semble que, pour le dire un peu rapidement, la manière dont Latour décrit les pratiques des chercheurs évoque pas mal la manière dont Julien décrit le général chinois qui fait la guerre, pour le dire un peu vite. En effet, pour Latour, même dans les sciences dures, la conception selon laquelle il y aurait un héros qui découvre et puis qui impose un modèle, relève en fait de la mythologie construite par ce qu'il désigne comme l'histoire des sciences traditionnelles, et contre laquelle, lui, il va développer sa description de la science telle qu'elle se fait. Selon Latour, vous le savez, l'histoire des sciences, c'est d'abord l'histoire des controverses, une histoire des pratiques et pas une histoire des idées. Hein, Latour est tout à fait opposé à ce qu'on appelle l'histoire internaliste, dans laquelle les idées sont premières. L'histoire des sciences est essentiellement une histoire des idées. Les idées sont premières et se diffuseraient comme ça, spontanément, s'il n'y avait pas de résistance, hein, comme le plan du général, selon Julien, qui devrait se réaliser s'il n'y avait pas les circonstances contraires. Vous savez, pour l'histoire internaliste, il y aurait comme ça des génies qui ont des idées, et puis tout le reste serait ou devrait être le développement, la simple conséquence des principes originaux. Latour lui stigmatise tout à fait ce qu'il nomme ce modèle diffusionniste qui, après avoir inventé, je le cite, « après avoir inventé le découvreur génial qui a des idées, invente ce monstre symétrique, un milieu, une société qui n'accepte ses idées qu'avec difficulté, en général par conservatisme ou obscurantisme, comme les médecins des villes qui ne trouvaient pas enthousiasmant les vaccins de Pasteur et auxquels on va reprocher d'avoir freiné la diffusion des idées de Pasteur. » Latour conteste cette conception selon laquelle, par inertie, les idées, une fois lancées par les grands hommes, devraient faire leur chemin toutes seules. Pour lui, en fait, les idées voyagent. C'est pas facile de faire voyager des idées, hein, c'est pas facile de faire voyager des faits scientifiques. Et ces idées voyagent grâce au social, et pas malgré lui, elles voyagent parce qu'elles ont su rallier une série de gens à leur cause. Donc Latour va tout à fait à l'encontre de cette conception d'un modèle pur qui aurait à lutter contre des obstacles, ici sociaux, pour se réaliser dans le monde. Il n'y a pas de modèle pour lui ni d'idées pures. Les modèles et les idées sont toujours déjà sociaux. Arrow, donc, sur cet idéal de pureté, je vous le cite. Hein. Histoire des idées, dit-il, histoire interne des sciences, épistémologie, sont les noms donnés à cette discipline qui devrait être interdite au moins de 18 ans, tant sont scandaleuses les mœurs de ces races pures. Voilà. On n'a donc jamais, voyez, chez Latour, de modèles d'idées qui seraient d'abord données ou découvertes et qu'il faudrait ensuite appliquer au risque de l'altérer et de la dénaturer. Ce qu'on a au contraire, écoutez ça, c'est un lent travail de maturation, de transformation, d'exploitation, on pourrait dire, il ne dit pas, mais enfin, vous imaginez bien ce que je vais vous dire, d'exploitation du potentiel de situation. La science est faite de controverses, et celui qui l'emporte, c'est celui qui a su au mieux exploiter toutes les ressources disponibles. On ne part pas d'un plan tout fait qu'on appliquerait ensuite. Le modèle se constitue à partir d'un ensemble complexe de pratiques et de négociations. Et l'efficacité d'une science lui vient de la transformation du milieu. Et chez Latour, c'est à la fois le milieu naturel et le milieu social. Il faut, pour l'emporter, modifier à la fois le milieu naturel et le milieu social. Donc l'efficacité d'une science lui vient de la transformation du milieu que ses partisans ont réussi à réaliser. Si on reprend un exemple sur lequel il allègue souvent, celui de Pasteur, eh bien, si Pasteur l'a emporté, si en quelques années il est devenu il est parvenu à convaincre tout le monde de l'existence des microbes et de leur importance dans le déclenchement des maladies, si cette victoire a finalement pris des airs de triomphe, ce n'est pas parce que la nature lui a donné raison et lui aurait permis d'imposer son idée géniale malgré la résistance des uns et des autres. S'il l'a emporté, c'est parce qu'il est parvenu à exploiter au mieux les forces en présence, parce qu'il a réussi à transformer la nature et la société pour que l'une et l'autre fassent place à ces microbes. Et dans le livre qu'il consacre à Pasteur, c'est un des premiers livres qu'il a écrit, peut-être le premier, je ne suis pas sûr, mais c'est possible, qui s'appelle « Les microbes, guerre et paix », Latour explique que bon, l'obsession de la science, l'obsession de la France, décidément, très, lapsus assez significatif de mes propres obsessions, l'obsession de la France, à la fin du XIXe siècle, ce serait la régénération de l'homme. Il faut des hommes forts à la science, décidément. La France vient de se faire battre par la Prusse en 1870. Les militaires veulent des régiments solides pour prendre leur revanche. D'autre part, à l'époque, la richesse commence à être menacée par la mauvaise santé des hommes, des ouvriers. Hein. Ils ne peuvent plus produire correctement. Les pauvres ne peuvent pas continuer comme ça à être misérables, ignorants, couverts de parasites et contagieux. Il faut assainir. Hein, c'est l'obsession de l'époque. Les postoriens, dit Latour, vont puiser à cette source pour faire avancer leurs affaires. Vous voyez, opportunistes comme les Chinois de Julien. Ils vont ainsi réussir à constituer tout un réseau d'alliés très divers qui vont peser dans la controverse. Les militaires, les industriels qui veulent des ouvriers en bonne santé, les mères qui veulent de bons enfants, les éleveurs qui veulent des moutons qui n'attrapent plus la maladie du charbon, etc., etc. Donc, vous voyez, Pasteur va utiliser de manière très habile les forces sociales existantes, hein, et il va transformer la société. Parce que ça, c'est, vous savez bien, les idées de Latour, je crois que la plupart d'entre vous les connaissent, hein. Il ne s'agit pas seulement d'inventer une science, il faut aussi inventer un contexte social qui va rendre cette science socialement vraie. D'une certaine manière, Pasteur a rendu les microbes scientifiquement vrais, il a montré qu'ils existaient dans ces éprouvettes, mais il faut aussi qu'ils deviennent socialement vrais. Il faut aussi qu'ils transforment la société, hein, en une société qui va lancer des campagnes de vaccination, qui va développer le tout à l'égout, etc. Bref, une société où les microbes ont une place. Et si Pasteur parvient à imposer ces microbes, c'est précisément parce qu'il a très bien exploité ce potentiel de situation. Il a travaillé la situation en sorte que sa victoire devienne finalement facile. Il est parvenu à imposer un rapport de force qui lui est favorable, à mettre de son côté une multitude d'alliés fiables. Et d'ailleurs, les termes de Latour, que je reprends là, hein, sont des termes, vous voyez, sont des termes militaires souvent. Hein. C'est le potentiel de situation tel que Pasteur l'a transformé qui a, comme dirait Julien, comme aurait peut-être dit Julien, accouché de la victoire. Et c'est tout à tort qu'on pourrait interpréter ça comme une espèce de victoire héroïque de Pasteur ou de ses idées. Je lis un extrait de ce livre, hein, Les microbes guéris. Une foule peut déplacer une montagne, un homme seul ne le peut pas. Si l'on dit donc d'un homme qu'il a déplacé une montagne, c'est qu'on lui a attribué ou qu'il s'est approprié le travail de la foule qu'il disait commander, mais qu'il suivait aussi bien. Il en est de même du rapport entre les hygiénistes et les pastoriens. Les hygiénistes, c'est tous les médecins de l'époque, hein, qui avaient cette idée qu'il fallait absolument assainir. Un immense mouvement parcourt le corps social afin de reconstruire le Léviathan, de sorte qu'il puisse abriter les nouvelles masses urbaines. Qu'en va-t-on faire avec ces ouvriers qui grouillent là et qui font... Les hygiénistes utilisent ce mouvement, et les pastoriens, quelques dizaines d'hommes au début, ne l'oublions pas, vont à leur tour chevaucher et traduire le mouvement hygiéniste. En France, le résultat de cette traduction fut tel qu'on a assimilé le mouvement hygiéniste aux pastoriens, on a en plus assimilé les pastoriens à l'homme pasteur, et finalement, selon une habitude bien française, voyez voir le modèle, hein, on a réduit l'homme pasteur aux idées de pasteur, et enfin ces idées à leur fondement théorique. Donc vous voyez, le fondement théorique, le modèle idéal, hein, et puis les idées de pasteur, et puis pasteur, et puis les pastoriens, et puis les hygiénistes, et puis le mouvement social, et hop, tout ça, hein, découlerait spontanément du point de départ les idées théoriques de pasteur. On a donc bien obtenu, en fin de compte, ce monde renversé, dit Latour, un homme soulève une montagne par son seul génie. Vous voyez, selon Latour, c'est toute la réalité, y compris la réalité sociale, qu'il faut transformer pour l'emporter. Ce qui l'amène à cette formule, qui a souvent été mal comprise, et qui, vous le savez, donné lieu à une multitude de polémiques, formule selon laquelle une affirmation scientifique est d'autant plus solide qu'elle est sociale, alors qu'en général, on vous dit non, surtout pour faire de la bonne science, il faut s'arracher au social. Non, pour lui, une affirmation scientifique est d'autant plus solide qu'elle est sociale. Je vous cite deux brefs extraits. « Ajouter le mot social au mot scientifique, dit-il, n'est ni un péché, ni un crime, ni une chute, c'est une élévation. Une science se porte d'autant mieux, elle est d'autant plus solide, rigoureuse, objective, véridique, qu'elle se lie davantage, qu'elle s'attache plus intimement au reste du collectif. » Un peu plus loin. « Plus une littérature est technique et spécialisée, plus elle devient sociale. » Si une affirmation technique est difficile à réfuter, ce n'est pas parce qu'elle est pure de toute dimension sociale, mais au contraire, parce qu'elle est toujours l'affirmation de nombreux hommes bien équipés. Donc vous voyez ce qu'il veut dire là. Alors il faut faire attention, hein, évidemment, à la mécompréhension possible. Ce qu'il veut dire, c'est que si un article scientifique est très social, hein, en quoi est-ce qu'on peut dire qu'un article scientifique est très social? Bien, en ceci qu'il s'appuie sur une multitude de références à d'autres articles, de scientifiques reconnus, si possible. Il s'appuie sur des protocoles d'expérience précis, sur des mesures faites dans des conditions soigneusement spécifiées qu'on peut refaire. Bref, il est social en ce sens qu'il a l'aval, par l'intermédiaire des références, etc., ou qu'il se présente en tout cas comme ayant l'aval, de nombreux hommes bien équipés. L'efficacité ne vient donc pas de ce qu'on s'arrache au social, de ce qu'on parvient à imposer un modèle pur ou idéal, mais de ce qu'on tisse un maximum de liens avec un maximum d'alliés. Hein, ce qui donne à une thèse, sa solidité, son objectivité, son efficacité, etc., c'est le nombre de liens qu'il attache au reste du monde. C'est une autre manière de le dire, c'est son thème de la boîte noire, hein, vous voyez bien ça. Hein. Une vérité scientifique solide, hein, c'est quoi? C'est une boîte noire. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qu'il serait extrêmement coûteux de remettre de remettre en cause. Ce n'est pas quelque chose qui est vrai avec un grand V, mais c'est quelque chose qui est tellement lié à tellement d'autres parties de la science et même de la société que ce serait extrêmement coûteux de rouvrir cette boîte noire, de relancer la controverse là-dessus. Dire la formule chimique de l'eau, c'est H2O. Bon, on utilise ça dans tellement de situations différentes que remettre ça en cause, ce serait extrêmement coûteux. Il faudrait réécrire tous les livres de chimie, de biologie, etc. Alors, donc, vous voyez, c'est ça hein, qui fait la solidité d'une proposition scientifique pour nous. Vous voyez que ce que décrit Latour, ce n'est pas l'application plus ou moins forcée d'un plan ou d'une idée géniale au monde naturel et à la société, c'est la transformation de la nature et de la société en vue de les rendre propices aux idées qu'on veut défendre. Vous voyez, pour lui, hein, la nature et la société, vous le savez bien, ne préexistent pas en fait aux controverses. Elles ne seront stabilisées qu'au terme des controverses. La transcendance de la nature et de la société, qu'on a tendance à considérer comme un donné, est en fait le résultat d'un travail de transformation, de stabilisation, et pour le dire avec les termes de Julien, le résultat d'un travail d'exploitation du potentiel de situation. Et il en va d'ailleurs de même de l'universalité des lois, autre élément essentiel de la conception platonicienne. Hein. Pour lui, Latour, l'universalité des lois ne préexiste pas plus que la société ou la nature, aux controverses. Vous savez, la conception classique de l'universalité de la science et de la technique suppose qu'une fois les théories découvertes, elles se répandent partout sans coût supplémentaire. La science s'applique en dehors du laboratoire et c'est bien la preuve qu'elle est efficace. Mais cette conception, qui est très largement acceptée, est, selon Latour, complètement erronée. Pour lui, et je le cite, « personne n'a jamais observé un fait, une théorie ou une machine capable de survivre en dehors des réseaux technoscientifiques qui lui ont donné naissance. » On ne sort pas du laboratoire, en fait, pour lui. Hein? Les faits et les théories scientifiques ne sortent jamais des réseaux. Et si on a parfois l'impression qu'ils le font, c'est parce que les réseaux ont été prolongés pour les étendre davantage. Donc, autrement dit, on ne sort pas du labo, si vous voulez, on transforme le monde extérieur en labo. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Hein? Une petite citation d'abord. Hein? Donc, plus fragile encore que les termites, parce que j'aime bien, c'est toujours un langage très imagé. Hein? Plus fragile encore que les termites, les fées et les machines peuvent voyager dans de longues galeries, mais ne peuvent survivre, ne serait-ce qu'une minute, dans cette fameuse et mythique extériorité tant prisée par les philosophes des sciences. Pasteur, encore lui, est parvenu à répandre ses théories parce qu'il est parvenu à transformer les fermes et les cabinets médicaux en laboratoires ou en annexes des laboratoires. Il évoque à ce propos la fameuse expérience de Pouilly-le-Fort. Vous voyez cette expérience, encore un grand moment de gloire pastorien. Hein. Donc, dans une ferme, donc ici, une expérience sur la maladie du charbon. Donc, il y avait une cinquantaine de moutons, séparé ça en deux groupes. Il va commencer par fabriquer un vaccin contre la maladie du charbon. Il va vacciner la moitié des moutons. Et puis, il va inoculer le virus hein, du charbon à l'ensemble des moutons. Magnifique, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont été vaccinés survivent, les autres vont mourir. Alors ça, je vous lis un passage de la revue scientifique 1800 de l'époque, hein. C'était en 1881, si je me souviens bien, cette expérience. Pouilly-le-Fort, pour vous montrer un petit peu l'emphase, la rhétorique de l'époque. Hein. Pouilly-le-Fort, aussi célèbre que tous les plus grands champs de bataille, décidément, la science, c'est la guerre. Hein. Bon. Pouilly-le-Fort, aussi célèbre que les plus grands champs de bataille, où Monsieur Pasteur, nouvel Apollon, n'a pas craint de lancer des oracles plus certains du succès que ne pouvait l'être le dieu de la poésie. Alors, plutôt que de s'extasier comme ça sur le miracle et la puissance prédictive de Pasteur, qui sait vraiment quels moutons vont mourir, il est plus intéressant, dit Latour, de voir comment Pasteur est parvenu à transformer, en quelque sorte, la ferme en labo. Bon, Pasteur avait déjà fait une série d'expériences dans son laboratoire, mais jamais dans les conditions réelles de la ferme. D'autre part, il savait bien que dans une ferme sale, où il y a des centaines de visiteurs, hein, on n'est pas dans un lieu où il pourrait répéter les conditions qui lui avaient été favorables dans le labo. Mais évidemment, faire venir des gens dans le labo, ce n'est pas aussi convaincant que de réaliser les expériences dans la ferme. D'où le compromis, dit Latour, transformer suffisamment d'éléments dans la ferme pour se rapprocher des conditions du labo, mais prendre quand même assez de risques pour que le test soit réalisé, soit réaliste et qu'on puisse considérer que c'est vraiment une épreuve grandeur nature. Alors, vous voyez, d'une manière analogue, hein, si la physiologie et la pathologie nous donnent aujourd'hui l'impression d'être sortis des laboratoires, d'être efficaces dans le monde, C'est, dit Latour, parce que les cabinets médicaux, notamment, sont aujourd'hui transformés en annexes d'un labo, parce qu'il y a là des instruments, thermomètres, tensiomètres, etc., une série d'instruments qui rendent efficaces, applicables et tout simplement visibles les modèles de la pathologie ou de la physiologie. Et quand les scientifiques ne parviennent pas à prolonger leur réseau, hein, donc à transformer en labo le reste de la société, eh bien, tout simplement, leurs faits et leurs théories sont mis à mort par l'extériorité. Ou, si on veut, renvoyer à l'intérieur du réseau. Il donne un exemple, un projet construit par des ingénieurs grecs, un projet de village solaire en Crète. On imagine que ça peut bien marcher en Crète. Hein. Donc, ils avaient fabriqué ça, et sur la maquette, c'était parfait. Mais là, ils ne sont pas parvenus à prolonger leur réseau, parce qu'ils sont heurtés à un extérieur, en l'occurrence les habitants de l'endroit, qui n'avaient absolument aucune envie de quitter leur vieille maison pour aller dans ce village flambant neuf avec des panneaux solaires et compagnie. Eux, ils voulaient juste une nouvelle route et une station essence. Et, bon. Et donc, ils ont résisté et renvoyé au tiroir des bureaux athéniens la magnifique maquette et cet excellent plan qu'on n'a pas pu finalement appliquer parce qu'il n'y a pas eu transformation préalable, en quelque sorte, de la situation ou prolongation du réseau. Et l'effet scientifique, dit Latour, c'est comme les trains ou les légumes surgelés. Ils peuvent circuler partout tant que la chaîne à l'intérieur de laquelle ils se déplacent n'est pas interrompue. Alors, on a tendance à ne pas le voir. On a tendance à ne pas le voir parce qu'on considère que l'universalité des lois physiques, biologiques, scientifiques, etc. permet de les appliquer partout. Mais en pratique, c'est pas comme ça. Hein? La loi d'Ohm, elle est universelle sans doute, mais on ne peut voir cette universalité que si on dispose d'instruments de mesure. Hein? Et Latour conclut finalement que la raison ressemble davantage à un réseau de télévision par câble qu'aux idées platoniciennes. Il propose de voir dans nos lois et dans nos constantes, dans nos démonstrations et dans nos théorèmes, des objets stabilisés qui circulent certes très loin, mais à l'intérieur de réseaux bien agencés dont ils sont incapables de sortir. Donc c'est ça pour lui l'universalité, c'est la prolongation des réseaux. Alors vous voyez, je viens de citer un extrait dans lequel il est question de théorèmes et de démonstrations. Et donc ça m'amène assez naturellement à vous dire un mot du statut des mathématiques. Alors selon Latour, les mathématiques, les équations font en fait partie des réseaux et contribuent au même titre que d'autres inscriptions, les comptes rendus, les plans, les schémas, etc. Contribuent aussi à faire circuler les faits, à rassembler en un même lieu une série d'éléments pour pouvoir les traiter ensemble. Alors je vais vous parler un petit peu de la manière dont il parle des mathématiques, hein, enfin dans ce que j'ai lu de lui en tout cas, et vous allez voir que ce qu'il en dit est assez différent de ce que j'ai dit quand je vous ai parlé de leur déraisonnable efficacité. Hein. Donc, c'est ici que je pense que, enfin, sur ce point-là, je pense que le modèle de Latour ne s'applique qu'à une certaine fonction des mathématiques ou une certaine utilisation des mathématiques. Je pense qu'il serait plus difficile de l'appliquer à ce qui, je pense, existe aussi et qui est la fonction, disons, le pouvoir un peu inventif des mathématiques dans certaines parties de la physique théorique. Hein. C'est pour ça que je vous dis que je pense que peut-être que le modèle platonicien, il lui reste encore une certaine pertinence, même si elle est encore plus localisée que nous l'imaginons, que le dit Julien. Donc, pour Latour, en fait, le modèle mathématique n'est jamais premier, hein, comme un plan idéal qu'il faudrait ensuite appliquer, mais il est tiré des pratiques qu'il résume et qu'il fait circuler. En fait, les mathématiques résument une série d'expériences, et d'autre part, elles permettent de rassembler toute une série de faits différents, hein, et de faire circuler ces faits de manière beaucoup plus efficace que sans mathématiques. Donc je vous donne son exemple. Son exemple, c'est celui du nombre de Reynolds. Reynolds, c'est un ingénieur qui étudie la turbulence et il fait toute une série d'observations. On en avait déjà fait avant lui, d'ailleurs. Hein, bon, par exemple, qui permettent de savoir que plus l'écoulement est rapide, bien, plus il y aura de turbulence. Que plus l'obstacle que le fluide doit contourner est gros, plus il y aura de turbulences. Plus le fluide est dense, plus il y aura de turbulences. Plus le fluide est visqueux, moins il y aura de turbulences. Et puis il écrit, bon, la turbulence, hein, la probabilité de voir apparaître la turbulence est proportionnelle, ben quoi, ben à la vitesse, à la grandeur de l'obstacle, à la densité, et inversement proportionnelle à la viscosité. Donc vous écrivez ça sous forme d'une équation mathématique, et vous écrivez R, le nombre de Reynolds, est proportionnel à ce que je viens de dire. L'introduction de ce nombre, dit Latour, crée un nouvel espace-temps. Crée un nouvel espace-temps, pourquoi ? Vous ne rêvez pas à l'espace-temps d'Einstein, hein, mais bon. Crée un nouvel espace-temps, pourquoi ? Parce que des situations aussi éloignées en apparence, je cite Latour, là, qu'un torrent rapide sortant des rochers, une rivière calme arrêtée par une digue, une plume qui tombe dans l'air ou un corps qui nage dans la mélasse, peuvent produire des turbulences similaires si elles ont le même nombre de Reynolds. De plus, dit-il, ce nombre permet aussi de réduire l'échelle d'une situation, Tant que le modèle réduit conserve le même nombre de Reynolds, on peut travailler sur le modèle, même s'il a une échelle complètement différente. Vous voyez, la puissance des équations leur viendrait comme ça, de cette capacité à rapprocher des phénomènes divers. Hein, par les mathématiques, elles ont cette puissance de résumer, hein, de rendre compte d'un nombre considérable de phénomènes, et aussi, vous voyez, de faire circuler les choses. On peut faire des observations sur un modèle, et ça vaudra pour autre chose, parce que les mathématiques sont les mêmes. C'est un peu comme de dire l'équation de Newton, la force gravifique en 1 sur R carré, ça vaut pour expliquer comment la pomme tombe et aussi comment la Lune ne tombe pas, contrairement pourquoi la Lune tourne autour de la Terre. Bon, ben voilà, c'est la même équation qui permet de rendre compte de phénomènes extrêmement différents. Mais, dit Latour, quelle que soit cette puissance, une équation ne diffère pas par nature des autres outils qui permettent de réunir comme ça les éléments, de les organiser, de les représenter. Et les équations ne doivent pas être détachées du processus de construction du réseau dont elles constituent une partie. R, le nombre de Reynolds, donc, permet certes aux chercheurs de passer d'un modèle réduit à un autre, et donc de voyager rapidement d'une situation de turbulence à l'autre, vous voyez, et de créer des liens et de faire circuler les faits très rapidement. Mais ça ne marche que s'il y a des centaines d'ingénieurs qui travaillent là-dessus, et ces centaines d'ingénieurs, ils ne le font que s'ils ont décroché des contrats de construction, de digues, d'avions, etc. Vous voyez, c'est tout le réseau qui est là derrière, et le nombre de Reynolds n'a d'intérêt que par rapport à ce réseau. C'est seulement après que ces réseaux ont été mis en place que l'invention du nombre de Reynolds, de R, peut produire une différence. L'équation, dit-il, est comme une plaque tournante dans la... Comme ça, j'ai appris ce que c'était qu'une plaque tournante, je ne savais pas. Donc, dans l'ancien système, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une plaque tournante au sens propre, dans l'ancien système des chemins de fer, hein, mais bon, on n'a pas connu ça, mais... Bon, il y avait... Quand les locomotives ne pouvaient aller que dans un sens, hein, les locomotives à peu près, etc. Donc, il y avait, à certains endroits, des plaques tournantes sur lesquelles on mettait la locomotive, puis on faisait tourner pour qu'elle puisse repartir dans l'autre sens. Quoi, hein. Donc, les mathématiques, c'est quelque chose de ce type-là, une plaque tournante, vous voyez, qui permet d'aller dans tous les sens, hein, mais elle n'est importante qu'aussi longtemps que les réseaux en ont besoin. Hein. Les équations n'échappent pas au réseau, elles ne donnent pas accès à un autre monde, elles ne proviennent évidemment pas d'un autre monde. De plus, ces formes mathématiques ne peuvent pas s'appliquer directement à la réalité empirique, dit Latour. Hein. Elles ne s'appliquent pas directement, les équations ne s'appliquent pas directement aux turbulences, aux microbes ou aux gens, hein. Elle ne s'y applique que si les microbes, les gens et les turbulences ont déjà été mesurés d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y a en fait, pour Latour, aucune raison de s'étonner que les formes abstraites s'appliquent à la réalité empirique. Tout simplement, elles ne s'y appliquent pas. Hein. Ce à quoi elles s'appliquent, c'est à quelque chose qui a déjà été transformé en mesure, en nombre, etc. Hein, ce n'est pas la turbulence telle qu'elle, c'est à certaines caractéristiques déjà mesurées de la turbulence. Hein. Donc les théories mathématisées sont, dit-il, les carrefours qui permettent au centre de calcul de mobiliser, de manipuler, de combiner, de réécrire, de lier entre elles les traces obtenues dans les réseaux. Hein. Ces théories sont, dit-il, c'est une image un peu comme la plaque tournante, comme les trèfles d'autoroute qu'on ne peut comprendre qu'à partir du réseau autoroutier. Hein. Mais on n'y comprendra plus rien si on transforme ces théories en objets abstraits, séparés des éléments qui lient les uns aux autres. Si on sépare, par exemple, la projection de Mercator, vous voyez bien, pour passer la sphère au plan, là, si on sépare la projection de Mercator des voyages des navigateurs, ou le nombre de Reynolds des turbulences expérimentales qu'ils cherchent à classifier, on ne comprendra plus rien. Hein. Si on le fait, les théories deviennent effectivement des espèces d'objets abstraits qui flottent comme ça au-dessus du reste de la science qui, par contraste, devient empirique, hein, ou expérimentale, et quand les théories abstraites ont un effet sur la science empirique, on crie au miracle. Comme s'il était miraculeux qu'un trèfle autoroutier corresponde justement, quelle chance, aux autoroutes qui les relient. Quoi. Alors que vous voyez bien l'idée, hein, les trèfles autoroutiers, comme les mathématiques ont été faites, ont été construites à partir de tous ces réseaux et de toutes les informations qui ont circulé dans ces réseaux. La puissance des mathématiques, des modèles mathématiques, n'a donc pour lui rien de mystérieux. Elle tient en fait à la position centrale de ceux qui calculent. Et s'ils ont une position centrale, c'est parce qu'ils peuvent intervenir effectivement sur des tas de choses par l'intermédiaire de leurs équations, sur la balistique, la démographie, la révolution des planètes, les jeux de cartes, etc. Hein? Les mathématiques sont puissantes parce que tout doit passer entre leurs mains en quelque sorte et parce qu'elles peuvent parler de presque tout, dans les mêmes termes mathématiques. Mais elles ne sont pas d'une nature différente que les autres informations qui circulent. Hein, une fois encore, il ne faut pas imaginer que le formalisme échappe à la mobilisation, à la construction des réseaux, etc. Les formes mathématiques résultent d'un travail concret, elles concentrent les associations, elles sont en quelque sorte plus sociales que tout le reste, plus sociales en ce sens qu'elles ont davantage de contact avec le reste. Bon, voilà, je me résume, et puis j'ai presque fini, hein, rassurez-vous. Ça va, vous êtes toujours avec moi ou vous en avez vous saturez vraiment, là. Enfin, bon, même si vous saturez, je n'ai plus que 3 pages. Hein, donc. Bon, et puis je parle vite, donc... Je me résume. La description de la tour est, je pense, aux antipodes de la conception de certains épistémologues et historiens des sciences, mais aussi peut-être de celle que décrit Julien, selon laquelle il faut partir d'un plan idéal, en général mathématisé, qui s'applique miraculeusement, déraisonnablement, à la nature, et qui devrait diffuser spontanément dans la société s'il n'y avait pas des résistances qu'on qualifie volontiers d'irrationnelles. Pour la tour, il ne faut pas partir du plan idéal, mais de la construction des réseaux, c'est-à-dire d'un long travail de transformation du monde naturel, d'une part, du monde social, d'autre part, qui permet finalement aux faits et aux thèses scientifiques de faire leur chemin et de s'étendre partout. La nature, la société, la vérité, l'universalité, tout ça, ça ne préexiste pas à cette construction des réseaux, hein, c'en est le produit. Et ce qu'on présente en général comme une découverte, je veux qu'on continue un peu dans le sens de Julien, là vous allez voir, ce qu'on présente en général comme une découverte scientifique majeure, comme une expérience cruciale, en fait ces événements que l'histoire des sciences met souvent en scène avec beaucoup d'emphase, c'est l'expérience cruciale, le moment où la nature va trancher, il y a 2 théories, l'expérience qui définitivement va faire taire une des deux, une espèce de mise à mort ritualisée comme ça d'une des 2 théories, hein. Ces moments-là, hein, donc, ces événements auxquels l'histoire des sciences donne tant d'importance, sont, pour reprendre, seraient, me semble-t-il, dans la conception de la tour, pour reprendre encore une fois les termes de Julien, l'affleurement sonore de transformations silencieuses. Hein, ce qui est important, ce qui détermine tout le reste, ce serait le long travail de maturation, toutes les transformations silencieuses qu'il suppose, et l'événement que l'histoire des sciences célèbre, c'est... Et peut-être ce n'est que, pour le redire de nouveau avec les termes de Julien, le moment où la maturation devient visible. Alors, que faire finalement de cette conception platonicienne du savoir? Je vous ai dit, moi je crois qu'il y a encore moyen d'en faire quelque chose, mais enfin bon, j'arrête de vous répéter ça. Est-ce qu'on peut considérer, sans autre forme de procès, qu'il s'agit d'une vieillerie de l'épistémologie et de l'histoire des sciences traditionnelles, et l'oublier, est-ce qu'on peut l'oublier définitivement? Alors oui, la tour aimerait bien, mais ce n'est pas si simple, dit-il. Pas si simple, parce que l'efficacité du modèle mathématique, si elle est épistémologiquement très faible, à ses yeux en tout cas, parce que c'est pas comme ça selon lui qu'il fonctionne les sciences, elle est quand même politiquement forte. Comme il l'explique au début de son livre « Politique de la nature », dont je vais vous dire un mot pour terminer aussi, parce que vous allez voir, c'est une bonne transition avec ce que va nous dire, j'imagine, enfin, Sébastien Brunet. Alors, pour le dire très vite, hein, la référence, je vous parle donc du début de ce livre, la référence à la transcendance, à l'eidos, au modèle idéal, depuis Platon, selon la tour, ça sert essentiellement à faire taire le peuple. En cela, le modèle platonicien aurait démontré, effectivement, une certaine forme d'efficacité. Efficacité, donc politique, et qu'il doit, précisément, à ce qu'il dissimule sa fonction politique réelle sous une fonction épistémologique, elle, illusoire. D'accord ? Hein ? Au début de ce livre, la tour relie, en fait, le mythe de la caverne dans cette perspective. Ce mythe, nous dit-il, introduit une rupture entre le monde humain, l'enfer social, l'intérieur de la caverne, et le monde des vérités non faites de main d'homme. Il introduit ces deux mondes, et puis il introduit ensuite le personnage du philosophe, depuis lors c'est devenu le savant, hein, qui parvient à s'arracher à l'enfer social, à contempler les vérités, hein, et qui, ainsi équipé, revient ensuite dans la caverne pour y mettre de l'ordre au moyen des vérités indiscutables, qu'il a donc contemplé, et vérité indiscutable, qui vont faire taire le bavardage des ignares. C'est pas vraiment une citation, mais c'est presque une citation de Latour. Toujours selon Latour, ce mythe aurait donc pour fonction de rendre impossible la démocratie. En effet, on a la constitution de 2 chambres, une première chambre qui rassemble des humains qui sont parlants, mais voués à l'ignorance et à l'illusion, une seconde chambre qui se compose d'objets réels, qui définissent ce qui existe vraiment, mais qui, eux, sont muets, hein, les idées. Bon. Et puis, il accorde un pouvoir exorbitant, dit-il, aux quelques experts qui peuvent faire la navette entre les deux, et qui possèdent à la fois la capacité de parler, puisque ceux qui font la navette, ce sont les scientifiques, hein, vous avez bien compris, qui possèdent à la fois le pouvoir de parler, puisqu'ils sont humains, et celui de dire le vrai, puisque eux, ils échappent au monde social grâce à la cesse de la connaissance. Donc, ils ont le pouvoir de parler comme les ignorants, mais eux, en plus, ils ont le pouvoir de dire le vrai. Ils ont de plus le pouvoir de faire taire les ignorants. Ils ont, comme dit Latour, la plus fabuleuse capacité politique jamais inventée, là, ceci c'est vraiment une citation, faire parler le monde muet, dire le vrai sans être discuté, mettre fin au débat interminable par une forme indiscutable d'autorité qui tiendrait aux choses mêmes. Le processus illustré par ce mythe, c'est donc en fait, dit Latour, un processus de politisation des sciences, c'est-à-dire une entreprise de détournement des sciences pour mettre à la raison la politique, pour éliminer tout débat politique. Bref, il s'agit de faire de la politique à l'abri de toute politique. On retrouve évidemment la possibilité de la démocratie. En revanche, dit-il, ceux qu'on accuse en général de politiser les sciences, c'est-à-dire tous ceux qui font des science studies, là, et les sociologues des sciences, etc., auxquels on dit toujours « vous ne parlez pas de la vraie science, mais vous parlez d'une science qui est entachée d'idéologie », etc. Pour Latour, c'est une tentative, au contraire, de dépolitiser les sciences, dans la mesure où ils rendent impossible ce que fait le modèle platonicien. Bon, cette conception platonicienne, illustrée par la caverne, serait incompatible avec la démocratie parce que, au nom de la science, elle fait avorter tout débat démocratique. La science, pour ceux qui croient à ce mythe, dit Latour, c'est bien, alors vous allez reconnaître la formule, c'est bien la politique poursuivie par d'autres moyens, et par des moyens qui n'ont de force que parce qu'ils demeurent radicalement autres, parce qu'ils sont présentés comme transcendants, parce qu'ils descendent du ciel des idées. Et ce que Latour propose, c'est de refuser d'entrer dans la caverne. J'allais faire un autre beau lapsus, j'allais dire d'entrer dans la caserne, mais bon. Et refusons d'entrer dans la caverne, d'ailleurs aussi dans la caserne. Et ce qu'il souhaite, c'est qu'on parvienne à concevoir une démocratie, je le cite à nouveau, une démocratie qui ne vive pas sous la menace constante d'un secours venu de la science. Et c'est cela qu'il s'efforce de décrire dans son livre « Politique de la nature ». Alors, cette démocratie, elle ne se construit pas contre la science, pas du tout. Elle gagnerait même, dit-il, à imiter la science. Non pas cette science mythique qui apporte le salut par la raison, évidemment, mais les pratiques scientifiques réelles, la science en tant qu'elle expérimente, qu'elle tâtonne, qu'elle teste sans cesse des assemblages risqués. Bref, la science telle qu'elle se fait, telle que l'a décrit Latour. Il faut, dit Latour, que tout le collectif, et pas seulement les savants, apprennent à expérimenter. Alors là, Sébastien voit que ça va bientôt être à lui. Alors, vous voyez, alors ceux qui pratiquent ce genre, tu vas me voir venir de plus en plus, ceux qui pratiquent ce genre d'expérimentation savent bien qu'ils vivent dans un monde incertain, et en quelque sorte, on peut dire que, le sachant, ils sont à l'abri de cette espèce de mouvement de panique qui guette toujours les partisans du modèle, disons, platonicien, qui sont régulièrement obligés de passer violemment du savoir absolu aux catastrophes imprévues. Comme vous savez, à partir du moment où on est sûr d'avoir une maîtrise totale, quand ça ne se passe pas comme on voulait, c'est le général et la guerre qui dévie. Quand ça ne se passe pas comme on l'imaginait, on est complètement désemparé, complètement démuni. Comme dit Latour, lorsque les scientifiques ont dû admettre, après des années de plaintes et de procès, que contre ce qu'ils avaient imaginé, l'amiante, matériaux parfaits, magiques, inertes, rentables, etc., pouvait provoquer des cancers. Vous voyez, selon Latour, l'amiante serait peut-être le dernier exemple d'un cas à avoir été traité sur le mode qu'il qualifie de moderne, et qui est ce que j'appelle moi ici conception platonicienne, sur le mode de l'action maîtrisée. On est sûr, on connaît les caractéristiques, les qualités de ce matériau, et donc on est complètement démuni quand arrive quelque chose, des conséquences inattendues. Selon Latour, nous aurions aujourd'hui appris, on devrait d'autre part continuer à apprendre, à composer avec l'incertitude, comme le stratège chinois finalement, qui sait que le terrain se modifie sans cesse. Et c'est cette attitude qu'on aurait aujourd'hui par exemple avec les prions ou avec les OGM, dont on sait qu'ils ne peuvent pas être détachés de leurs conséquences à long terme, et dont, si je puis dire, on s'attend à ce qu'ils produisent des conséquences inattendues. C'est peut-être ça qui permettra d'éviter des catastrophes imprévues, et même impensable, qui accompagnait la foi qu'on pouvait avoir dans la possibilité d'une véritable maîtrise. Voilà. Mais enfin, je pense que ce genre d'expérimentation, cette réflexion sur les moyens d'agir dans un monde incertain, c'est exactement ce que fait Sébastien Brunet. Et donc, je crois qu'il est temps que je lui cède la parole. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et voilà.